Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce Vivante Église. Aujourd'hui, je rencontre les Pèlerins de l'Eau Vive, fondée à Lourdes en 1979. Cette mission catholique accompagne les malades de l'alcool et leurs proches, leur force, une écoute profonde, la prière, le soutien fraternel et une conviction. On ne soigne pas une maladie de l'âme seulement par des médicaments. Aujourd'hui, je reçois trois invités en plateau, un médecin et un couple que vous allez découvrir dans un instant.
Vivante Église, Nathalie Cardon.
C'est une émission aujourd'hui pour écouter, pour mieux comprendre et redire que la vie n'est jamais perdue, même au cœur de la dépendance. Bonjour à vous trois et je me tourne vers vous, Marc. Bonjour Marc.
Bonjour.
Alors, médecin généraliste, 40 ans de mariage, 3-4 grands-enfants, votre épouse est décédée et nous allons un peu dans ces premières minutes aussi découvrir votre témoignage. Votre épouse Béatrice est décédée à l'âge de 65 ans, c'était en 2023, des suites de cette maladie et de cette dépendance à l'alcool. À vos côtés, vous êtes accompagné d'un couple que vous connaissez bien, des membres des Pèlerins de l'Eau Vive. Bonjour Janine.
Bonjour.
Alors, vous êtes mariée à André, qui est à vos côtés. Bonjour André.
Bonjour.
Alors, vous avez tous les deux soufflé vos 55 ans de mariage.
Oui.
55 ans de mariage et nous découvrirons, si vous le voulez bien, je crois que vous avez aussi beaucoup de choses aussi à partager dans ce plateau de Vivante Église spécial, puisque c'est avec les Pèlerins de l'Eau Vive. Qui dit Pèlerins de l'Eau Vive parle aussi d'addiction, l'addiction aussi et la dépendance à l'alcool et toutes les addictions qui peuvent exister aujourd'hui. Marc, vous avez été marié pendant près de 40 ans, votre épouse est décédée. Pouvez-vous nous témoigner un petit peu ce cheminement que vous avez eu avec Béatrice, décédée des suites aussi de cette maladie de l'alcool? Et
elle
merci.
Est décédée surtout d'un cancer du poumon lié à une autre addiction qui était le tabac. Voilà, mais donc j'ai été marié avec Béatrice pendant une quarantaine d'années. Nous avons eu 4 enfants et malgré cette maladie, nous avons vécu comme un couple presque normal, sauf bien sûr pendant les périodes d'hospitalisation. Mais ce que je voulais dire, c'est que grâce aux Pèlerins de l'Eau Vive, on a pu vivre une vie de couple et une vie familiale normale. Grâce à leur soutien, grâce à l'espérance que toutes ces rencontres, tous ces pèlerinages nous ont procuré.
Alors Béatrice est devenue, est-ce qu'on peut parler de dépendance, dépendante de ce produit, dépendante de l'alcool, à quel moment dans son histoire de vie, dans son parcours de femme, dans son parcours d'épouse et dans son parcours aussi de mère? Quel a été un petit peu le déclic qui l'a fait sombrer?
La maladie s'est révélée au moment où nos premiers enfants, nos aînés, ont quitté la maison. Elle s'est sentie complètement abandonnée, dévalorisée. Elle me disait, voilà, je ne suis plus que la mère de nos enfants, la femme du médecin. À quoi bon continuer vivre? Et je lui ai pourtant dit que si j'avais ce statut professionnel, social, c'était grâce à elle. Si nos enfants étaient épanouis, si on avait une très belle famille, c'était grâce à elle. Mais malgré cette valorisation sincère que je lui faisais quasiment au quotidien, la maladie était déjà installée.
Vous avez réagi comment dans les premiers temps quand vous avez été vous-même témoin et alerté des premiers signes?
J'ai réagi comme un médecin.
Est-ce que vous avez réagi en tant qu'époux ou en tant que médecin dans un premier temps?
Dans un premier temps, peut-être en tant que médecin. en disant, voilà, ben écoute, c'est une petite déprime, prends un médicament et puis ça ira mieux. Et après, j'ai vu que ben, finalement, c'était pas du tout sérieux de ma part, qu'il fallait demander de l'aide. Ça, c'était important. Et donc, on s'est tourné vers des professionnels et des psychologues. Et j'ai senti que malgré cela, ce n'était pas suffisant. Et je me suis aperçu que ma femme... pardon, on va couper. Enfin, oui, comment dire... que ma femme m'échappait, en quelque sorte. La maladie m'échappait, mais ma femme m'échappait. Et j'ai vu que quelque chose pouvait nous rapprocher. C'était la foi, notre foi.
Votre foi, ce rapprochement s'est fait avec Béatrice, hein, qui a rencontré les pèlerins de l'eau vive.
Alors Béatrice, lors d'une hospitalisation donc au Sable d'Olonne, a rencontré les pèlerins de l'eau vive et donc m'en a parlé à l'issue de cette hospitalisation. Et comme nous étions déjà engagés au niveau religieux, puisque donc on venait avec le rosaire depuis 12 ans, qu'à la paroisse, donc on a des engagements, chapelet, prière des mères. Mon épouse organisait la prière des mères. Donc j'ai vu que c'était quelque chose d'important.
Alors l'époux que vous étiez, le médecin aussi, comment avez-vous vécu un peu cette descente aux enfers, si on veut parler de descente aux enfers, de votre épouse, hein, qui devenait petit à petit dépendante du produit?
On est complètement démunis. Hein.
Donc vous-même, médecin, ah, oui. Vous avez été démuni?
Démuni, oui. Ah, oui. Et grâce au contact avec les pèlerins de l'eau vive, où on peut s'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Moi, j'ai passé avec certains pèlerins de l'eau vive des heures au téléphone parce que je n'allais pas bien, parce que mon épouse n'allait pas bien et que je me sentais totalement impuissant. Donc, il y a eu un soutien par téléphone, un soutien psychologique vraiment très, très important.
À vos côtés, Janine et son époux André, vous connaissez bien tous les trois, oui. En tant que pèlerins aussi de l'eau vive. Qu'est-ce que vous pouvez vous donner en tant qu'épouse, mariée depuis 55 ans, comme témoignage à ceux et celles qui vous écoutent aujourd'hui dans ce plateau spécial Vivante Église autour de cette dépendance et la dépendance, entre autres, à l'alcool?
Et moi, je suis donc codépendante, pèlerin de l'eau vive depuis 15 ans. Et je considère que c'est un soutien. J'ai trouvé dans cette mission catholique des pèlerins de l'eau vive des frères qui me comprennent en tant que codépendance. Et aussi... Et j'ai puisé dans cette mission l'espérance qu'un jour ou l'autre, mon mari serait guéri. Et j'y crois encore et j'y crois toujours.
Et vous, monsieur André, l'époux, racontez-nous un petit peu votre propre cheminement. Qu'est-ce qui s'est passé pour sombrer dans une telle dépendance depuis... 25 ans. Et merci de votre témoignage qui nous est très précieux aujourd'hui dans cette émission.
Ça démarrait un peu quand je suis mis en inactivité prématurée suite à une réforme de structure de l'entreprise et je me suis retrouvé un petit peu complètement désorganisé. Je vais travailler un travail qui me plaisait beaucoup. Je participais à beaucoup d'activités avec des dirigeants de l'entreprise. Et un jour, on m'a dit, ben maintenant, voilà, tu as un choix à faire. Tu pars sur un autre département ou tu t'en vas précipitamment. C'est quand je dis précipitamment, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de choix. Hein. C'était rapide. Alors, à partir de ce moment-là, je suis arrivé à la maison, comme ça, complètement désorganisé dans mon travail, de la maison. Parce que j'avais été... La maison, à ce moment-là, c'était plutôt un loisir. Et maintenant, il fallait que je sois présent à tout moment. Et là, j'ai commencé à prendre un peu de la consommation alcoolique. Et je prenais ça au départ, avec un petit peu de recul, comme une récompense de mon travail que je faisais à la maison. Je travaillais le matin, je faisais ce que j'avais envie de faire. Et puis, avant midi, je commençais à prendre une bière. Hein. Et puis après, s'est installé un rythme un peu plus fort. En après-midi, après les matins. Et comme j'étais un peu, encore toujours un peu désorganisé, je me pressais. Je voulais faire ce que j'avais envie de faire, mais un peu en désordre. Et là, j'ai consommé pour atténuer un petit peu cette angoisse de ne pas pouvoir faire tout ce que je voulais faire.
Est-ce que cette retraite rapide oui. qui vous a surpris, oui. Assez violente pour vous,
oui.
Vous vous êtes senti un peu rejeté et puis au fond devenu inutile?
Alors, je dirais rejeté, c'est par rapport à l'extérieur. Car au départ, on me voyait un peu, on me disait « Tiens, t'es en vacances ?» Je disais non. Oui, je disais oui plutôt. J'avais des vacances à prendre. Mais au fur et à mesure des mois qui suivaient, on m'a dit « Mais t'es toujours en vacances ?» Et là, j'ai dit non. Non, maintenant je suis en pré-retraite, en retraite. Alors là, il y a eu un comportement des personnes qui me posaient les questions qui a changé. Ils me disaient « Ah, t'as de la chance. T'as de la chance. Hein. C'est pas à nous que ça arriverait. » Et là, ça m'a encore mis un coup sur la tête. Et je me raccrochais à prendre des consommations.
Et la consommation augmentait au fur et à mesure des semaines et des mois qui passaient?
A augmenté, oui.
Vous en aviez conscience?
Oui, bien
que
sûr.
Que vous augmentiez dans oui, votre consommation, oui.
Bien sûr, j'augmentais.
Et à partir... rien ne pouvait vous arrêter
J'ai consulté un médecin psychiatre
oui.
qui m'a proposé une cure. Et au bout de la cure, 4 semaines, je me suis senti beaucoup mieux. À partir de là, j'étais 2 mois à peu près, ou bien. Et là, j'ai rencontré les pèlerins de l'eau vive. C'était en novembre 2010. Et là, j'allais au chapelet le mardi. À Nantes, où j'ai travaillé, mais je faisais quand même le trajet tous les mardis.
Combien de kilomètres hein, pour dire ce chapelet, réciter ce chapelet?
30 kilomètres. Comment?
Vous étiez accompagné
non,
de votre épouse?
Non, j'allais seul.
Cette démarche était importante, de faire cette démarche tout seul?
Oui, parce que...
Qu'est-ce qu'elle disait pour vous, cette démarche de prier le chapelet?
Je pensais que c'était pour moi, c'était une continuité de ce que la cure que j'avais faite. Et puis en même temps, de découvrir les pèlerins de l'eau vive, en quoi ça fonctionnait. Et c'était une mission, en fin de compte, pour soutenir les malades de l'alcool.
Qu'est-ce que ça vous apporte, ces pèlerins de l'eau vive, puisque vous êtes aujourd'hui ici à Lourdes, en pèlerinage avec les pèlerins, et puis cette pancarte qui inscrit les pèlerins de l'eau vive, Jésus Sauveur, guérez-nous de l'alcool, merci.
Alors, au départ, j'étais un petit peu en retrait, parce que je voulais découvrir, et puis porter la pancarte, j'étais hésitant, oui.
Pourquoi
Jésus Sauveur, guéris-nous de l'alcool. Je ne sais pas la porter dans les différentes cérémonies.
Vous sauriez dire pourquoi?
C'était parce que j'avais honte de moi. Honte. Et ça, c'est difficile à expliquer parce que honte parce qu'on consomme. Je consommais, plutôt, c'est pas on, je consommais. et honte d'afficher que j'étais un consommateur, que j'étais un malade.
Et aujourd'hui, 25 ans plus tard, puisque vous parlez vous-même de cette honte qui vous habitait, vous avez toujours cette honte sur vous-même, André ?
Un peu moins de honte. Parce que j'ai quand même appris à souffler, à respirer, hein, et me dire, bon, je ne suis pas seul, il y a tous les pèlerins qui sont là, et ils sont là pour aider et en même temps s'aider eux-mêmes, hein, parce qu'on est tous victimes d'un petit peu de ce qui de son passé, on est tous un peu comme ça, hein, soit en tant que dépendant ou en codépendant.
Et si j'interrogeais peut-être votre épouse, qui est une codépendante, Janine, vous avez eu, permettez-moi, puisqu'on évoquait aussi ce sujet de la honte avec votre époux, est-ce que vous avez ressenti vous-même, en tant que codépendante, cette honte envers votre époux?
Pas du tout.
Jamais?
Pas du tout.
Alors c'est quoi le secret, c'est quoi le miracle qui s'opère, hein, pour vous?
Vous parlez de miracle, et bien oui. Justement, je pense que ma foi grandissante avec l'âge et ma foi grandissante fait en sorte que je n'ai pas honte et je contribue et j'espère. Pour moi, foi et espérance avec un grand E, je n'ai pas dit espoir, je dis espérance dans la prière et beaucoup avec l'aide des pèlerins de l'eau vive. J'ai adhéré tout de suite à cette mission et tout de suite avec le port de la pancarte. Je n'ai jamais eu honte.
Alors, vous êtes mariée depuis 55 ans, 25 ans de maladie, parce qu'on parle bien de maladie.
Oui. Hein,
voilà, on entend parfois aussi parler de maladie de l'âme. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, vous, en tant qu'épouse codépendante, aux auditeurs qui ont un proche, une épouse ou un époux, un enfant dépendant et malade?
Et vous avez dit maladie de l'âme, et bien je pense que c'est tout à fait ça. Parce que le malade a peut-être vécu aussi dans son passé des grandes peines. Hein. Et chacun, la maladie, elle est différente. Chacun a sa maladie. Et je pense que, d'abord, on est tous malades. Hein. On a tous une addiction, hein, dont il faut chercher à se soigner. Mais la maladie de l'alcool est certainement causée en grande partie par le manque de confiance en soi. Et je pense que c'est la maladie de mon mari.
Oui, je voudrais rajouter quelque chose. C'est que c'est l'humilité. Eh bien, on n'est pas humble devant le produit alcool. Il est plus fort que nous. Quand on est malade, il est plus fort que nous. Et c'est dur à dire, mais on est trop faible. Je suis trop faible. L'alcool est fort.
Moi, je n'ai pas beaucoup consommé dans ma vie, mais je suis abstinente volontaire depuis 11 ans. Mais je dirais que je n'ai pas de mérite parce que je n'ai jamais été attirée par l'alcool. Et aujourd'hui, je peux dire que même une odeur de gâteau avec du rhum me gêne. Donc il y a quelque chose aussi qui s'est passé dans le cerveau, puisque je suis abstinente depuis 11 ans et je ne prends jamais d'alcool.
Je vais vous proposer de vous retrouver à tous les trois dans ce Vivante Église spécial, puisqu'il est consacré aux pèlerins de l'eau vive, et qui dit, cette association des pèlerins de l'eau vive, dit aussi ce sujet que nous abordons, et merci à tous les trois d'addiction, de dépendance et puis de maladie de l'âme avec cette dépendance à l'alcool parmi aussi toutes les dépendances. On se retrouve juste après et merci à tous les trois.
Thank you. Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Vois, mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.
Mon Dieu, pose ton regard sur moi.
Église, Nathalie Cardon.
Vous êtes toujours à l'écoute de cette émission de Vivante Église. Je reçois les pèlerins de l'eau vive et merci à tous les trois. Janine, vous êtes accompagnée de votre époux André, et puis on est accompagné aussi d'un médecin, et c'est Marc. Et je me tourne vers vous très vite, Marc. Quelles sont les causes les plus fréquentes de l'alcoolisme? Et là, je m'adresse plus particulièrement aux médecins.
Très souvent, le départ, c'est dans l'enfance, avec des sévices sexuels. En tout cas, ça a été le cas pour mon épouse. D'autant plus que ça n'a pas, ces sévices n'ont pas été reconnus par la maman. Autrement, il peut y avoir d'autres causes. On en a parlé. Se sentir inutile dans la vie, hein. Donc ça a été le cas d'André lors de sa retraite anticipée. Ça a été aussi le cas de mon épouse au moment où donc les enfants ont quitté, ont commencé à quitter le foyer familial. Elle s'est sentie inutile, alors que j'essayais de valoriser au maximum. De la valoriser et de lui dire que ben, finalement, si on avait une belle famille, si j'avais ce statut social et professionnel, eh ben, c'était grâce à elle. Et donc, cet abandon, elle s'est sentie abandonnée par ses propres enfants. Et donc, ça a redéclenché cette faiblesse.
Vous vous êtes sentie vous-même démunie?
Je me suis senti vraiment démuni, oui, parce que...
L'époux et le médecin.
L'époux et le médecin, oui. Je me suis senti vraiment démuni, impuissant. Et c'est vraiment une maladie complexe, l'addiction à l'alcool. C'est une maladie qui touche le corps, bien sûr, qui touche aussi donc toute la partie psychologique, et puis ce qui touche l'âme. Et on a vraiment besoin de se faire aider. On ne peut pas rester seul.
Effectivement, j'avais eu le témoignage de Béatrice lors d'un pèlerinage à Pontmain, qui m'avait dit que depuis tous
donc,
ces événements...
Béatrice, c'était
l'épouse de Marc. Et elle se sentait inutile. Et elle se sentait... elle n'avait plus rien à faire, quoi. Alors je lui avais dit, mais Béatrice, la plus grande chose, c'est d'avoir conduit tes enfants vers aujourd'hui, semble-t-il, une bonne situation et que tout va bien dans ce sens-là pour tes enfants. C'est la plus belle chose de ta vie.
Oui, je dirais que dans le sens inutile, ça veut dire aussi, je rejoindrai les propos de Marc en se disant, maintenant les enfants sont bien partis pour réaliser une bonne carrière, et puis maintenant ma présence elle sera toujours là, mais avec moins d'approche sur leur devenir. J'ai toujours œuvré avec mon épouse pour les accompagner dans toute leur démarche scolaire. Et puis une fois que c'est fait, eh bien, j'ai accompli ce que j'avais à faire.
C'est vrai. Mon mari a été un bon père. Il a fait beaucoup pour ses enfants.
Et je vais prendre la parole aussi. Mon épouse était une mère vraiment formidable. Et elle s'est sentie complètement dévalorisée, inutile à cette période-là. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est une maladie qui est complexe. C'est une maladie, donc il ne faut pas en
donc
avoir...
Donc elle est chronique, hein, cette maladie chronique. Hein, c'est important de redire.
Et c'est une maladie comme une autre. Il ne faut pas en avoir honte. Et il ne faut pas en avoir honte, d'autant plus que quand on en parle, eh bien, on s'aperçoit que finalement, toutes les familles sont touchées par cette maladie. Et ça nous fait du bien d'en parler. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien d'en parler. Je pense que ça fait du bien aussi que ma femme parle de sa maladie. Et ça fait du bien aux autres qui l'entendent et qui vont se confier à vous, se confesser quasiment à vous, en disant, ben, moi aussi, chez moi, j'ai mon mari ou j'ai un de mes enfants qui est atteint de cela.
Vous avez eu honte de votre épouse Béatrice, hein, vous-même, Marc, époux, médecin, père de famille, quand elle a commencé à sombrer?
Non, parce que j'ai tout de suite vu que c'était une maladie en tant que professionnel. Voilà, c'est une maladie. Par contre, mes enfants ont eu honte de leur maman et il a fallu que je fasse tout un apprentissage, un enseignement, si je puis dire, en leur disant, écoutez, c'est une maladie comme une autre. Vous avez une maman qui est malade. Quand votre maman est malade, eh bien, dans ces cas-là, partez voir des amis. Hein, ça ne sert à rien. De toute façon, on ne peut pas avancer, on ne peut pas converser avec quelqu'un qui est à cette période-là. Par contre, quand votre maman est bien, profitez-en. Hein. Donc, je leur avais dit, vous avez deux mamans, comme moi, j'ai deux épouses. Hein. Eh bien, quand elle ne va pas bien, ben, on essaie de la soutenir, etc. Et puis, quand elle va bien, ben, on en profite au maximum.
C'est vrai. Je compatis. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans la mission des pèlerins de l'eau vive, je suis aidée aussi en tant que codépendante. En appelant par exemple les Marc ou d'autres pèlerins de l'eau vive par téléphone, parce qu'on n'est pas si proche, très proche, et ça m'aide beaucoup. Mais depuis quelque temps, je converse aussi avec des gens qui sont dans l'alcool, et notamment avant ce pèlerinage. Un prêtre qui pourrait être présent, parce qu'il est pèlerin d'eau vive, un prêtre m'a confié cette maladie Et j'essaie de l'aider comme je peux. Là, depuis hier soir, je lui ai envoyé une photo de la grotte et je lui ai dit qu'on pensait à lui. Voilà.
Alors, vous-même, vous êtes maman, Janine, vous êtes donc papa aussi, vous avez des petits-enfants. Comment vos enfants, aujourd'hui, cheminent-ils dans cette relation aussi avec vous, codépendante, et puis un père qui est depuis 25 ans, André, malade.
Alors, nos enfants connaissent bien la maladie de l'alcool, puisqu'ils sont eux-mêmes médecins, infirmières. Et la plus proche de son papa, c'est notre fille. Je pense que la relation père-fille est importante. Et elle essaie de l'aider comme elle peut. Elle a beaucoup fait. Et je pense qu'elle fait encore. Et donc, bien sûr, il y a des jours où c'est formidable quand... quand tout va bien, et d'autres jours, ils ont tendance aussi à baisser les bras, je n'ai pas peur de le dire.
Et vous-même, est-ce que parfois vous baissez les bras, André ?
Ben oui, parce que je me dis, mais je ne vais jamais m'en sortir. Je ne vais jamais m'en sortir. Alors que j'ai tout un panel autour de moi qui est là pour donner des conseils, pour aider, prier et me mettre en état d'être avec eux, mais dans le sens de l'abstinence, par exemple. Hein.
Alors vous avez
Ce que je voulais rajouter, c'est que cette maladie, elle est une maladie sournoise. On la voit pas venir. Enfin, moi, c'était mon cas, je l'ai pas vu venir. Je commençais à consommer, bon, je dis tiens, c'était le circuit de la récompense. Hein. Donc, tu dis tiens, je suis bien, je prends quelque chose. Mais après, il y a l'augmentation régulière. Et qui après, me rendait pas du tout dans un bon esprit d'occupation, de... C'est très complexe, et parce que c'est sournois.
Alors, moi aussi, j'ai eu des grandes périodes où j'étais complètement découragé, démuni. Et donc, comme le disait Janine, eh bien, c'est ça qui fait notre force chez les pèlerins de l'eau vive, c'est qu'on peut appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit quelqu'un. Donc, Janine, par exemple, ou Marie-Jo, qui m'a beaucoup aidé aussi. Et puis moi, je crois aussi en la force de la prière, la puissance de la prière. Donc, je me mets à prier seul. Ça me fait beaucoup de bien. Et en sachant que je ne suis pas seul à prier, il y a d'autres pèlerins. Il y a aussi une communauté aux Béatitudes, les sœurs de la Béatitude, qui prie aussi pour nous. Hein. Et mon épouse a fait donc une retraite chez elle pendant 9 mois, tellement elle était touchée. Et donc, elle est allée à cette communauté des Béatitudes à Ventône faire une retraite, et j'allais la voir de temps en temps.
Votre épouse a eu des temps parfois de rémission. Est-ce qu'elle a eu des temps aussi, donc Béatrice, d'abstinence durant ces années où elle a malheureusement, tragiquement sombré dans cette dépendance?
Oui, bien sûr. Il y a eu des grandes périodes d'abstinence, et nous avons fait énormément de choses, de voyages en famille ou tout simplement tous les deux. On a eu une vie de couple quasi normale.
Janine ?
Moi, je me suis rendu compte dans la force de la prière. Car quand mon mari va mal, il m'arrive de prier, ne serait-ce que de supplier Marie, de demander à son fils de guérir mon mari. Et je pense vraiment dans la force de la prière. Et je me suis aperçue que quelquefois il y avait un résultat. Quelques heures après, mon mari allait beaucoup mieux, et puis on pouvait en parler déjà ensemble. Ouais. Car ce n'est pas toujours facile d'en parler ensemble.
Je pense que quand même, on en parle souvent. On parle souvent de cette maladie.
Alors peut-être pas assez pour Janine.
Oui, on en parle souvent, mais peut-être qu'on en parle... Moi, j'essaie de lui en parler dans le sens de l'encouragement. Mais j'ai l'impression aussi, par moments, qu'il est dans le déni. Donc, je pense qu'il ne faut pas quelquefois que je... Je pense aussi que je le dis trop avec ma force.
Vous avez envie de réagir?
Je voulais réagir parce que quelquefois, oui, mon épouse, eh bien, me traduit ce qu'elle ressent assez durement. Hein. Et puis, ça me titille, hein, ça me rend encore un peu plus dans l'inquiétude de ce que je suis. Et puis, de provoquer une consommation.
De ce que je suis. Vous êtes quoi? Est-ce que vous pouvez aller plus loin?
Eh bien, je suis un malade de l'alcool. Si on me... J'ai rencontré l'autre fois, il y a quelques jours, quelqu'un qui m'a dit « Alors, comment vas-tu? Parce qu'on voit bien que tu n'es pas bien. » J'ai dit « Mais arrête de me parler comme ça. Hein, » Je lui ai dit « Arrête de me parler comme ça. C'est maladroit ce que tu dis. On ne parle pas comme ça à quelqu'un de sa maladie. »
Docteur, je me tourne vers vous. Est-ce que les personnes malades de l'alcool sont des personnes, au fond, très tendres, très touchantes, généreuses et hypersensibles?
Ce sont des personnes hypersensibles.
Et très profondes.
Oui, exactement. Donc elles peuvent être blessées dans le plus profond de leur cœur très très facilement, oui. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les juger. Il faut vraiment les aider. Elles ont besoin d'un soutien au quotidien.
Alors je vois que vous avez envie de réagir depuis 2-3 minutes, Janine.
Oui, moi je suis tenace effectivement parce que je pense que mon mari ne mérite pas d'avoir cette maladie parce que par ailleurs c'est quelqu'un de très généreux, très bon et peut-être justement parce qu'il est hypersensible, mais je répète, il ne mérite pas de... Je ne sais pas si on peut dire cela comme ça, mais c'est un homme si bien qu'il ne mérite pas d'être malade. De cette maladie.
Elle vous chérit, votre épouse. Elle vous aime, votre épouse.
Oui, je sais. Hein,
vous le savez, oui.
Je sais beaucoup.
Ah oui.
Mais nous les aimons, nos malades.
Ah oui.
Profondément. C'est pour ça qu'on est toujours là.
Vous n'avez jamais pensé, on ne vous a jamais dit, dans votre entourage proche, amical, familial, Janine et Marc, de divorcer. Voilà, parce que ça semble peut-être impossible à vivre au quotidien d'être aux côtés d'une personne dépendante de l'alcool, tous les deux.
Plusieurs fois, on m'a conseillé divorcer, de me séparer, mais pour moi, ce n'était pas une chose envisageable. Moi, j'aime mon épouse et j'expliquais justement à ses amis que j'avais vraiment... fallait voir mon épouse malade et mon épouse sans l'alcool et qui était adorable. Donc, on ne va pas divorcer parce que mon épouse a un cancer du sein ou... voilà, enfin... Moi, je sentais en plus qu'elle avait besoin d'un soutien et que mon soutien était primordial.
Moi, une infirmière m'a dit il y a 4 mois, mais pourquoi vous n'avez pas divorcé il y a 10 ans, par exemple? Et je n'ai pas mis 3 secondes à réagir. Je lui ai dit, mais parce que j'aime mon mari.
Si ce n'est pas une déclaration d'amour, là, 55 ans de mariage, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous fait du bien.
Oui, et puis je rajouterais quand même 2 ans et demi de plus. 57 ans et demi.
57 ans et demi, ah oui.
Nous n'étions pas ensemble, mais on se voyait tous les jours.
Ah oui.
Et je sentais que mon mari était déjà fragile et souffrait lui-même sans doute, ayant un papa alcoolique, de la maladie de l'alcool. Donc je sentais un besoin de l'aider.
Elle a dit, je vais vous... tout simplement vous remercier à tous les trois de votre participation, de vos prises de parole, de vos témoignages respectifs. Qu'est-ce qu'on peut retenir de rester dans la prière, de rester dans l'espérance? Et je vais donner peut-être le mot de fin à André pour cette émission, et je pense particulièrement à des auditeurs qui seraient touchés de près ou de loin par cette maladie. Le mot de fin pour vous?
Eh bien, je dirais de bien écouter cette émission, de la garder autour, au fond du cœur, parce qu'elle est importante. Sinon, ça peut être aussi un drame pour les familles, un drame pour la personne elle-même. Et puis, faut espérer.
Est-ce que vous espérez pour vous-même?
Oui, mais avec les pèlerins de Lviv.
Merci à tous les trois. Merci à votre épouse, à vos côtés, Janine. Merci à vous, Marc. Et je vous souhaite à tous les trois, et puis tous les pèlerins de Lviv, un très, très beau pèlerinage auprès de Marie. Au revoir.
Merci.